La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Une grande table spéciale à l'occasion à la fois de la présentation en Conseil des ministres aujourd'hui, vous l'avez dit Antoine dans votre journal, de la loi Égalité et Citoyenneté, un projet de loi qui vise à lutter contre la ghettoïsation en rendant plus équitable entre les territoires l'attribution de logements sociaux. D'abord donc cette présentation qui a été adoptée d'ailleurs de ce projet de loi. Et puis d'autre part l'ouverture d'une grande exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Une exposition intitulée « Habiter le campement, architecture de nomades, voyageurs, contestataires, conquérants, infortunés, exilés ». Nous avons pour l'occasion invité Patrick Bouchain. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes architecte, mais vous vous présentez plus volontiers comme un constructeur. Vous êtes d'ailleurs le fondateur de l'agence Construire, qui se présente comme un phalanstère forain. Et vous dirigez la collection L'Impensé chez Actes Sud, qui coédite le catalogue de l'exposition. Patrick Bouchain, on vous doit à la fois la création, la transformation de friches industrielles en espaces culturels, par exemple l'Académie Fratellini à Saint-Denis, le Chanel Seine Nationale de Calais, la Ferme du Buisson à Noisiel, le Lieu Unique à Nantes, le Centre Pompidou Mobile. Et puis vous travaillez aussi à réfléchir sur le logement social, sur le fait d'habiter un lieu dit inhospitalier. Et vous avez même créé une haute qualité humaine plutôt qu'une haute qualité environnementale, une haute qualité humaine comme un label que vous avez mis en application, par exemple à Tourcoing avec l'atelier électrique, à Boulogne-sur-Mer avec la maison de Sophie ou encore à Beaumont en Ardèche avec les bogues du Blat. Et toutes ces expériences que vous avez mis en pratique, il ne s'agit pas là de séparer les paroles des actes avec vous, Patrick Bouchain, eh bien, vous les avez rassemblées dans un livre qui doit paraître au mois de mai, intitulé « Pas de toi, T-O-I-T, sans toi, T-O-I », dans la collection L'Impensé, donc chez Actes Sud que vous dirigez. Et c'est un livre qui rassemble donc ces constructions et ces réflexions sur l'habitat social. Pour dialoguer avec vous aujourd'hui, nous avons invité autour de la table Philippe Tretiak, bonjour à vous, architecte et urbaniste de formation, grand reporter, écrivain. Vous venez de publier « L'architecture à toute vitesse, 56 règles glanées autour du monde », un livre qui vient de paraître donc aux éditions du Seuil. Vous êtes tous les deux d'ailleurs allés voir cette exposition qui comporte un titre qu'on pourrait trouver paradoxal, « Habiter le campement ». On peut se demander d'emblée, Patrick Bouchain, quelle est la place du campement dans l'architecture ? Et si on peut parler d'habitat quand on évoque le campement ?
Parce que d'abord, il faut rappeler en effet ce que veut dire « habiter ». C'est-à-dire qu'habiter, c'est expérimenter un lieu. C'est pour ça que tout à l'heure, à la question « est-ce que, en effet, c'est une bonne disposition que le gouvernement prend en renforçant des quotas ou en imposant ?» Ce qu'il faudrait, c'est permettre l'expérimentation. Habiter, c'est vivre. Et donc, habiter, c'est expérimenter. Et expérimenter, c'est, en effet, faire l'expérience éventuellement de rater. C'est l'expérience de quelqu'un qui a envie de montrer ce qu'il sait faire. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'habitat social tel qu'il est, et aujourd'hui on le détruit alors qu'il a été habité et mal habité, et qu'il y a un mal-vivre dans cette forme d'habitat, ne pourrait-on pas le prendre tel qu'il est pour le réhabiter autrement, avec plus de liberté ? Et c'est vrai que le campement est une forme de pré-habitat. C'est-à-dire que c'est comment quelqu'un qui est en route, quelqu'un qui est nomade, quelqu'un qui est sur son chemin, comment cette personne étant sur son chemin s'arrête et fait la première rencontre ou crée, on pourrait dire, le premier noyau de ce que pourrait être une ville.
Comment est-ce qu'on peut habiter sans expérimenter, simplement pour expliciter ce que vous dites ? Vous dites habiter, c'est expérimenter. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut habiter au sens commun du terme sans expérimenter l'habitat que l'on a ?
Non, c'est pas possible parce que vous-même, dans votre habitat, vous changez quelquefois le lit de place et vous pensez qu'il est mieux placé que précédemment. Et vous ne comprenez pas comment vous n'aviez pas compris dès le début que le lit comme ça est mieux que le lit d'avant. Et c'est simplement peut-être parce que vous avez changé de compagne ou de compagnon, ou que vous avez changé d'âge. Et donc ça veut dire que sans cesse vous expérimentez votre logement. Et on a pour preuve que ce qui n'est pas fait pour être habité est plus habitable que ce qui est fait pour être habité. C'est-à-dire que ce qui est normé, en fin de compte, nous impose un mode de vie qui ne correspond pas au mode de vie actuel. Et c'est bien pour ça que ceux qui en ont les moyens, en général, utilisent des locaux qui n'ont pas été faits pour être habités et les transforment en habitat. On voit bien que la transformation de son habitat, c'est ce qui vous transforme vous-même et qui vous permet de mettre un habitat au mode de vie, ou disons au désir ou au plaisir que vous avez dans votre logement. Et donc cette solution, enfin c'est ce que je propose, est une solution économique. Parce qu'on parle tout le temps de développement durable, mais pour mettre en place le développement durable et la haute qualité environnementale, on détruirait ce que l'on aurait construit avant au prétexte que ça n'est pas conforme au développement durable actuel, et on oublierait que les logements sont faits par des hommes et habités par des hommes. Et donc c'est pour ça que j'ai opposé donc à haute qualité environnementale la haute qualité humaine, car la première des choses qui est à conserver dans un habitat, c'est l'homme.
Mais pour en revenir à ce préhabitat qui est le campement et qui se multiplie à tel point que dans l'exposition, 6 catégories ont été distinguées. Les nomades, les voyageurs, les infortunés, les exilés, les conquérants et les contestataires. Patrick Bouchain, est-ce que vous voyez un point commun ?
Ben oui. Le point commun, justement, c'est l'expérimentation.
C'est pas la même chose de voyager, de planter sa tente à un moment, d'occuper une place.
Moi, quand je n'avais pas d'argent et que j'avais des enfants, j'allais camper dans le bois de Boulogne avec mes enfants. Et le fait de prendre le métro, de descendre à la porte Maillot, de marcher dans le bois de Boulogne, de camper dans le bois de Boulogne et de dormir à côté d'un Allemand ou d'un Hollandais, ça a fait prendre conscience à mes enfants que Paris était une ville ouverte. Donc on peut dire que c'est une expérience que de dormir de plein pied sur le sol de sa ville et de considérer que dans le bois de Boulogne, s'approprier une partie du bois de Boulogne qui n'est pas constructible, c'est-à-dire dormir dans le bois de Boulogne, c'est une façon de dire que le territoire est partageable et que je peux à un moment donné me trouver dans une situation hospitalière où moi-même j'accueille un Allemand et je peux coucher à côté de lui alors que je suis parisien et que pour un moment j'habite à côté de lui. C'est en ça que le campement est expérimental. Et vous pouvez prendre de l'autre personne qui n'a pas de logement et qui décide à un moment donné de prendre un terrain qui est abandonné, un délaissé, que personne ne veut. Il suffit qu'il occupe le délaissé pour qu'immédiatement on le chasse de ce délaissé au prétexte qu'il n'a pas le droit de l'occuper. Donc c'est inadmissible. Et quand vous voyez à Calais, mettons, qu'une ville est en déprise, que les logements sont murés, que les usines sont fermées, et que des gens s'arrêtent là parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin à cause de la réglementation européenne, et qu'ils ne peuvent pas aller en Angleterre, on pourrait se dire, mais quelle chance on a d'avoir des gens qui s'arrêtent là, qui vont peut-être construire leur logement et nous les laisser. C'est quand même toute l'histoire de l'humanité comme ça. Et on pourrait leur donner des logements qui ont été occupés par des ouvriers de la dentelle, dont le capitalisme de la dentelle les a mis au chômage. Ces gens ont quitté Calais. Calais est en déprise et on pourrait profiter de cette déprise pour redonner vie avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et vous vous rendez compte qu'à Calais, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des gens qui font du théâtre et qu'on ne profite pas de cette richesse des gens qui se déplacent de Damas à Calais. Mais bon, c'est impensable quand on parle qu'on ne veut pas faire de ghetto. Mais c'est ça, ne pas faire un ghetto. C'est de prendre justement ce qu'il y a de meilleur qui arrive dans votre ville. Et on aurait pu installer un atelier public d'architecture et d'urbanisme à Calais avec des architectes syriens qui auraient construit une ville qui est peut-être la ville d'ailleurs dans laquelle des Français sont allés faire des vacances touristiques, d'aller voir Alep. Et peut-être qu'on aurait eu un cours sur Alep, qui est une des plus belles villes au monde.
Philippe Tretiak, pardon.
Oui, dans la question que vous posez, peut-on habiter le campement ? On sent qu'il y a cette idée que l'encampement, comme l'expression est utilisée pour parler du développement, je demande c'est quand, il y a derrière ça la notion, que ça me rappelle une autre, c'était celle de l'ensauvagement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est face à un monde qui devient de plus en plus terrible. Et ce qui était très intéressant justement dans l'exposition, il me semble, de la cité, c'est que justement, elle n'est pas que dans le pathos. C'est qu'elle montre que ce fameux développement de ces espaces d'informalité, disons, qui gagnent le monde, ce ne sont pas que des gens habiter, ce serait s'abriter. C'est beaucoup plus que ça. C'est des gens qui sont à la fois des gens qui ont choisi d'être nomades, des gens qui font des rassemblements comme on a pu connaître les grands rassemblements d'autrefois, genre Woodstock, mais il y en a plein, les vieilles charrues, il y a plein de choses comme ça. Ça fait aussi partie de l'exposition. Il y a aussi les contestataires, il y a aussi... Donc c'est très intéressant parce que c'est pas seulement un focus sur Calais, la jungle, la détresse, la misère, etc. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est là que je trouve que l'exposition est intéressante parce que, et ça rejoint probablement ce que veut dire, j'imagine, Patrick Bouchain, quand il dit qu'il faut expérimenter. Je pense que effectivement, l'idée, semble-t-il, hein, c'est de tirer des enseignements de toute cette construction informelle qui se développe dans le monde et qui, malgré l'idée qu'on en a, est en fait très souvent extraordinairement régulée. Il y a aussi tout un système de normes, y compris dans les camps de réfugiés les plus terribles. D'ailleurs, c'est sans doute...
Extérieur ou intérieur ?
Extérieur et intérieur. C'est qu'il y a évidemment, l'extérieur se protège souvent de ces lieux, mais ces lieux-mêmes sont eux-mêmes traversés assez d'extraordinaire, d'abord d'un dynamisme et d'une pulsion de vie formidable, aussi parfois prise en main par des gangs et des choses terribles. On le rappelle toujours, mais la loi est là pour protéger les faibles, et quand il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, d'où la jungle de Calais, etc. Mais dans ces lieux-là, il se passe aussi des choses extraordinairement intelligentes et intéressantes. Et il me semble que d'ailleurs, pour poursuivre ce que disait Patrick Bouchain, il y a une expérimentation qui est faite à Calais, puisque j'ai vu que dans l'exposition, on donne une espèce de petit journal qui s'appelle Réinventer Calais.
Que Patrick Bouchain voilà, nous montre, voilà. On est à la radio.
Comme il y a eu Réinventer Paris, où on a fait appel aux architectes, là il y a l'idée de réinventer Calais, donc précisément de demander aux gens qui passeraient par Calais, qu'ils soient architectes, urbanistes, historiens, gens de bonne volonté, j'en sais rien, de réfléchir à ce que pourrait être justement un lieu qui, qu'on le veuille ou non, est appelé à se développer sur la planète, des lieux où les gens sont en transit et que finalement ne transitent plus. Parce que la grande énigme justement de ces lieux de transit, c'est qu'évidemment ils sont pérennes. Oui. Donc voilà, donc quelle expérience tirer de tout ça, quoi.
D'abord, en effet, alors j'en profite parce que c'est absolument magnifique. Ces événements, on pourrait dire, font quand même réfléchir les enseignants, les étudiants en architecture, peut-être sur une autre façon de faire la ville. Parce qu'on peut penser quand même que la réglementation ou les techniciens ont en partie échoué. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de réglementer et de financer pour produire de la ville. Il fallait peut-être y introduire la vie. Et donc là, le Pérou, qui est donc une association qui est présidée par Gilles Clément...
On a reçu Sébastien Thierry, voilà, il y a quelques semaines.
Voilà, ils ont sorti donc un Calais Magazine, qui est donc une sorte de journal municipal que devrait faire donc une municipalité qui aurait envie de redévelopper sa ville. C'est de prendre tout ce qui est positif, c'est-à-dire de voir quels sont les projets qui sont initiés par des gens qui n'ont pas de moyens, alors que nous-mêmes...
Qu'est-ce qu'il y a dans le journal, alors, par exemple ?
Aujourd'hui, on dit on ne peut plus rien faire parce qu'on n'a pas de moyens. Par exemple, mettons, comment faire une école ? Comment ça coûte ? Comment faire un théâtre ? Combien ça coûte ? Comment faire un centre de santé ? Combien ça coûte ? Quand on dit qu'on n'a pas d'argent et qu'on va des gens donc construire, auto-construire, s'organiser et produire un équipement, c'est assez formidable parce que c'est ça le développement durable. C'est même ça le réemploi. C'est peut-être eux qui sont bio, comme on dit. Voilà. C'est une sorte de biopolitique. Ça serait de réintroduire dans le discours politique la vie au sens de l'action et non pas la politique au sens de la réglementation.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Patrick Bouchain, tous dans les campements, c'est une expérience, c'est formidable, il faut tous qu'on vive dans des campements.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Caroline.
Non, je pose volontairement la question, parce qu'il faut Caroline. Bien titiller un peu, il me connaît,
alors,
Patrick
tous
Bouchain.
Dans des logements sociaux, tous en banlieue.
Non, mais justement, mais...
On veut toujours qu'il y ait qu'un seul modèle. Ce qui fait la démocratie, c'est presque le risque. C'est prendre des risques, c'est prendre ses responsabilités, c'est expérimenter. La démocratie, elle est subversive. Donc quand elle émerge comme ça, il faut regarder ce qu'elle peut produire. Vous vous rendez compte qu'à Calais, il y avait quelqu'un que j'ai rencontré qui, lui, avait tenu des camps à Beyrouth. Il était syrien et pendant 2 ans, il a tenu des camps à Beyrouth. Après, il a été chassé de Beyrouth. Cette personne avait monté 10 écoles dans les camps de Beyrouth. Vous pensez que c'est pas intéressant d'avoir à Calais quelqu'un qui a monté 10 écoles dans un camp à Beyrouth, alors qu'on dit qu'aujourd'hui on n'a plus de crédit à l'éducation nationale? Il a fait une école sans lieu. Quand vous relisez les textes de Condorcet, quand il a fait l'éducation nationale, il a dit que ça serait une école sans lieu. C'est une école où on ira chez les gens et c'est l'instructeur qui sera un pasteur. Donc il faut quand même revenir au fondement.
Pour prolonger quand même les interrogations de Caroline, on a l'impression que ça serait quand même une solution globale, ce que vous dites. C'est-à-dire que ça serait mieux...
Non, pas du tout.
Préciser,
voilà. Alors d'abord, il faut penser qu'il y en a quand même beaucoup qui vivent dans des villes en autoconstruction. Et qu'on va donc avoir une très forte urbanisation de la planète et qu'on va peut-être avoir de plus en plus de gens qui vont vivre dans des villes qui seront des villes non programmées. Donc il faudrait peut-être regarder comment ceux qui en effet se sont occupés d'eux-mêmes, de leurs affaires, comment ont-ils pu faire, alors que nous, normalement, on fait la ville. Donc on pourrait peut-être associer les deux savoirs, si vous voulez, la vie d'un côté et la technique de l'autre. Donc, moi, je dis que le campement est un lieu d'observation. Et ce qui m'intéresse, et ce que je trouve formidable dans cette exposition, c'est que la Cité de l'architecture, pour la première fois, a traité de ce sujet. Donc, une grande institution, Fiona Meadows, qui en est donc la commissaire, a réuni, et comme le disait Philippe tout à l'heure, ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas une vision mortifère, c'est un état. Si vous voulez. Après, on voit... On prend le campement au sérieux. Après, on voit que c'est un lieu d'observation et d'expérimentation pour des étudiants. gens. Mais on voit même, parce que c'est une revue que personne ne lit, Cassandre, qui est une revue d'ailleurs qui est en très grande difficulté, que j'ai soutenue pendant longtemps, il y a maintenant des articles sur ça. Donc, et on voit bien qu'il y a même une réflexion journalistique, théorique, pratique, et il n'y a pas le regard politique sur ça. C'est ça que je reproche, si vous voulez. C'est que le politique pourrait se dire, mais peut-être que là, on a ce qu'on n'arrive pas à faire autrement. C'est pas l'autre modèle. C'est un modèle ou un morceau d'un modèle qui vient se joindre à l'autre modèle. Vous vous rendez compte qu'à Calais, il y a un élu. Dans le camp, il y a un élu. Comment se fait-il que la maire de Calais n'ait pas rencontré l'élu de ce quartier, on pourrait dire? C'est donc des gens qui s'organisent, qui désignent un responsable, et une démocratie ne peut pas écouter le responsable. Moi, je ne peux pas entendre ça.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Quelle est la place, il continue de parler de tous les deux, c'est bien normal, quelle est la place du campement dans l'architecture? Voilà la question que nous nous posons à l'occasion notamment de l'ouverture aujourd'hui d'une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, une exposition qui s'intitule « Habiter le campement ». Notre invité est Patrick Bouchain, constructeur, et autour de la table pour dialoguer avec Patrick Bouchain, l'architecte urbaniste et grand reporter Philippe Tretiak, qui a fait un tour du monde pour observer l'architecture à toute vitesse. Philippe Tretiak.
Oui, je voulais, sur cette idée, j'entends très bien ce que dit Patrick Bouchain avec, quand il parle de l'extraordinaire inventivité qu'on peut trouver dans ces camps. Il est vrai que les gens qui très souvent arrivent à fuir des zones tragiques, je parle pas justement des réfugiés climatiques, par exemple, qui sont là d'autres, un autre type de gens poussés malgré eux, mais les gens qui partent, par exemple, de Syrie, etc., ce sont souvent quand même des gens assez forts. C'est vrai que pour arriver à partir, solide, enfin, souvent même assez cultivé, etc. Bon. Le problème, c'est que, ils s'affaiblissent aussi. C'est qu'à force de les maintenir dans des conditions, dans des camps, des conditions assez tragiques, ils finissent par s'affaiblir. Il y a même des gens qui en meurent. Donc, il y a aussi, c'est sûr que tous ces lieux sont des lieux d'expérimentation extraordinaire, mais en même temps, ce sont aussi pour beaucoup de gens des impasses, des lieux tragiques, etc. Moi, puisque Caroline, vous parliez de ce livre.
Mais il ne faut pas passer du radicalement mortifère au radicalement formidable.
Oui, c'est-à-dire, moi, dans le livre, l'architecture à toute vitesse, c'est vrai que moi, j'ai fait le tour du monde et que j'en ai quand même vu, tout le monde. J'ai croisé un nombre de lieux comme ça extraordinaires, que ce soit à la frontière irano-afghane, que ce soit au Mexique, que ce soit en Afrique du Sud, etc. Des tas d'endroits. Et je me souviens quand même que, puisque ça fait partie d'une, c'est listé là dans les six catégories relevées par la
les nomades, les infortunés, les exilés, les conquérants et les contestataires.
Alors, je crois que les squats, ça doit être dans les contestataires. Il me semble que c'est les gens qui occupent comme ça de façon informelle des lieux qui ne sont pas en théorie pour eux. Mais l'un des endroits les pires que j'ai vu au monde de ma vie, c'est un squat de toxicomanes au Mexique où on marchait sur les seringues, etc. Et où il y avait vraiment, pour moi, c'était l'impasse absolue. C'est-à-dire, donc ces lieux-là sont aussi dans l'exposition. C'est certain que pour arriver à briser le carcan des normes qui empêchent justement toute possibilité d'inventer d'autres types d'habitats, ce serait formidable qu'on puisse se servir de tout ce qui se produit. Mais on comprend très bien l'histoire de la maire de Calais qui ne veut pas rencontrer l'élu du camp. Rencontrer l'élu du camp, c'est reconnaître l'existence du camp. Donc c'est évidemment, le problème il est là, c'est que tout le monde sait que ça existe. Et puis, beaucoup de gens font comme si ça n'existait pas, ou de toute façon que ça n'allait pas durer. Mais on sait bien que ça dure. Il y a en Thaïlande des camps de Laotiens qui sont là depuis trois générations. Il y a des gens, les Sabrach Attila, tous les camps palestiniens au Liban, c'est des camps où les gens sont là depuis des générations. Donc, cette idée que...
Mais est-ce que les gens sur place, précisément, ont envie que ça dure? C'est une expérimentation, c'est une expérience.
C'est une bonne question.
Patrick Bouchain. Mais eux-mêmes, ils ont...
C'est terrible.
Eh bien,
parce que
non,
c'est terrible parce que à chaque fois, non, parce que c'est un très grand phénomène, le favela, l'autoconstruction, la pauvreté, c'est un très grand phénomène. Et dès qu'il y a une expérience, on pense que cette expérience va immédiatement réussir et qu'elle va annuler tout le reste. Si vous voulez. Le monde est surpuissant. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est sa faiblesse. Il est surpuissant. Il y a des gens qui, dans cette surpuissance, vivent très mal. Mais c'est une grande partie de la population. Nous, on en a 5000 à Calais. On n'est même pas capable de le traiter. Il y a des villes où il y a 2 millions d'habitants qui vivent dans cette situation. Donc, moi, ma réflexion, c'est de dire, mais pourquoi on ne regarde pas ça avec plus d'attention ? Voilà. Et pourquoi ça, ça ne fait pas partie d'une expression politique? On entend des élus qui parlent de participation, et là, on a un exemple d'auto-organisation qui est une forme de participation, et on ne l'observe pas.
Vous pensez qu'on pourrait apprendre quelque chose, c'est ça, dans ce mélange.
D'abord, on apprendrait sur le plan économique.
C'est pas tant que ce soit un modèle, mais c'est que c'est un apprentissage.
Pour moi, c'est une université foraine. C'est-à-dire que c'est une forme de d'expérimentation de la ville. Le partage d'un espace public pour revendiquer, c'est une forme de parler peut-être, qui fait que le conseil municipal n'est plus le lieu de l'expression politique, si vous voulez, ou que l'agora, voilà, n'existe plus. Donc, comme les places publiques sont vendues au commerce quand même, quand on pense que Anne Hidalgo a osé dire que la privatisation de la place de la République ne pouvait pas se faire, car ça n'était pas conforme à l'intérêt général, quand on voit l'inauguration de ce que c'est que la canopée ou Halle, si ça c'est pas une privatisation, car moi j'ai jamais vu dans une ville, en plein centre comme ça, immerger un centre commercial. Au nom de quoi? De quel droit? Parce que Unibail avait depuis très longtemps la possibilité d'exploiter le sous-sol, et que là il a revendiqué d'utiliser les travaux du RER pour émerger sur la surface. Mais moi je préférerais qu'on dénonce éventuellement la canopée des Halles, au même titre qu'on pourrait dénoncer, un camp, mais on n'a pas d'un seul coup les camps, et alors parce qu'on parle des camps, du coup c'est un modèle. Pour moi c'est pas un modèle. Mmh. Et quand même pour revenir, parce que faut regarder quand même toute l'humanité, les villes se sont construites, et en général elles se sont effondrées parce qu'elles étaient trop puissantes, trop organisées. Regardez Babel. Voilà, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête, parce que ce pouvoir comme ça souverain n'est pas possible. Et donc on reprend la route. On reprend la route. Même avec Internet, on voit des gens aujourd'hui qui reprennent la route. Comme vient de le dire Philippe, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font des milliers de kilomètres à pied pour tenter de prendre un ferry, et qui éventuellement, ne trouvant pas le ferry, ont encore le courage de construire une ville pour habiter, et qu'il y a donc des Anglais qui viennent pour construire un théâtre, des Belges qui viennent pour construire une école, et on ne dit pas, tiens, c'est formidable l'Europe, il y a aussi une autre Europe qui est capable à un moment donné de réparer ce que l'Europe fait mal, des gens qui ne peuvent pas aller en Angleterre, alors on vient construire un théâtre. Et que fait le juge? Elle a versé une larme, le juge, quand elle est allée à Calais, parce que d'un seul coup, ça lui paraissait être un lieu de vie, en effet pas propre. Mais vous avez vu les sous-sols de la Défense, si c'est propre? C'est honteux, les sous-sols de la Défense. Et donc là, c'est pas propre. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah, en effet, on va pas détruire les lieux de vie. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un, un équipement culturel, donc un théâtre, c'est un lieu de vie. Et une habitation, ça n'est pas un lieu de vie. Et donc les gens ont écrit immédiatement sur toutes leurs maisons, lieu de vie. Et on a tout démoli, les théâtres et les maisons. Non mais c'est une société injuste.
Philippe Chrétien.
Que la société soit injuste, c'est difficilement contestable. Il me semble qu'il faut quand même faire un distinguo entre quand même deux types d'habitat informel. Parce que quand Patrick Bouchain parle des favelas, c'est vrai qu'il y a des quartiers de ville immenses qui sont constitués comme ça de façon informelle, de gens qui viennent s'installer, etc. C'est pas exactement la même chose que de tenter un passage vers un autre pays et de se retrouver bloqué dans un camp. C'est pas exactement la même chose. Ensuite, que ce camp se soit obligé de générer une espèce d'auto-construction pour rendre les choses vivables, c'est certain. Mais c'est pas quand même exactement pareil, il me semble.
Mais non, c'est pas pareil.
Qu'on puisse tirer de l'enseignement des deux, mais c'est pas...
Les dix.
Il y a une chose quand même dans les six catégories là, qui sont relevées par cette exposition. Il est certain qu'on peut être nous-mêmes, on fait partie de ces catégories nomades, tous les gens qui prennent l'avion, qui bougent, on en parle beaucoup, ça aussi, ça c'est déjà une forme de nomadisme. Qu'on soit des voyageurs, qu'on soit des touristes, qu'on soit parfois des concurrents, si on travaille dans des ONG ou des grandes entreprises qui vont à l'étranger pour se développer, qu'on soit des contestataires, certes, qu'on soit des exilés, c'est déjà beaucoup plus rare, parce que là, il faut vraiment une catastrophe pour se retrouver exilé. Et qu'on soit infortuné, comme ils le disent, puisque c'est la catégorie numéro 3, l'infortuné est celui qui est sans fortune, justement, donc celui qui se trouve démuni de rien, de tout, dans le meilleur des cas, ça ne nous arrivera pas. Donc, c'est intéressant de voir cette exposition aussi, parce que on est partie prenante de cette exposition, on en fait partie de l'encampement du monde, mais avec la chance parfois d'échapper aux situations les pires. C'est pour ça, je comprends très très bien cette notion que développe depuis toujours d'ailleurs Patrick Bouchain, sur cette idée que c'est de l'informel que peuvent naître des nouvelles règles, etc. En même temps, encore une fois, le danger c'est la loi de la jungle.
Oui,
Patrick Bouchain.
Mais moi, je pense que, alors, bon, en effet, je défends peut-être où je parle de Calais plus que du reste, parce qu'aujourd'hui c'est l'actualité, et donc il faut quelquefois se servir de l'actualité pour expliquer un point de vue. Mais moi je l'ai fait pour des équipements culturels. L'Académie Fratellini est un campement sur un terrain non constructible. Zingaro est un campement sur un terrain non constructible. Zingaro a 25 ans, si on avait attendu d'avoir un terrain pour construire un théâtre équestre, on ne l'aurait pas eu. J'ai récupéré les grandes écuries dans le château de Versailles pour faire Zingaro pour l'Académie d'art équestre, parce que l'armée avait laissé les grandes écuries dans un état déplorable. Et donc, ça veut dire que, y compris l'administration, ou quand on parlait tout à l'heure du logement social, il y a un abandon d'une grande partie de l'espace construit, et il y a donc une nécessité pour certains, en effet, tu as raison, des fois c'est pour le bonheur d'exercer, je sais pas, le plaisir d'une compagnie de théâtre, et quelquefois c'est par nécessité parce que je ne peux pas aller au-delà et je vais là. Et donc c'est bien pour ça que l'exposition est formidable, c'est parce qu'elle mêle le tout, et que peut-être que d'aller camper à côté des gens de Calais, c'est une façon de les accompagner, mais au même titre qu'on pourrait être un habitant de Calais, parce que j'ai un ami qui l'a fait, on peut accueillir quelqu'un, et moi j'ai accueilli une Syrienne à Paris. C'est-à-dire que du coup j'ai rencontré une Syrienne et j'ai imaginé qu'elle pouvait être ma fille. Elle a le même âge que ma fille et elle a fait des études à Damas, et donc du coup j'ai décidé de m'occuper d'une Syrienne. Et donc voilà, Mariam maintenant elle est comme ma fille, et contrairement à ce que tu dis, moi je pense que ça pourrait m'arriver. Au même titre qu'à un moment donné on pensait que nos enfants ne seraient pas au chômage. Moi mes enfants ont été au chômage. Ma fille a eu un cancer, je ne pensais pas que ma fille aurait un cancer. Et bien peut-être qu'un jour je serai exilé. Et je pense tout le temps, si tu veux, que si moi je ne fais rien pour cette situation, eh ben, peut-être qu'on fera rien pour moi et je ne peux pas le vivre.
Oui, Antoine. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites, malgré tout, puisque d'un côté, vous semblez faire un éloge du nomadisme, et d'un autre côté, vous ne souhaitez pas que cette situation se produise. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe?
C'est le paradoxe avec le local et l'international, si vous voulez. C'est de dire que moi, j'ai décidé de ne pas voyager. Voilà, je ne voyage pas. J'ai décidé de ne travailler qu'en France. Parce que je pense que, voilà, il suffit des fois de prendre une ligne de métro pour trouver à la Courneuve les mêmes conditions qu'à Caracas. Donc, je pense que c'est mieux quand on est un étudiant en architecture d'aller sur un territoire là plutôt que d'aller dans une ONG à Caracas, comme si nous, Français, on pouvait donner des leçons à Caracas. Donc, en effet, j'ai décidé de ne pas voyager. Mais quand vous ne voyagez pas, ce voyage immobile, en fin de compte, est un voyage de la rencontre. La preuve, c'est que j'ai rencontré énormément de gens.
Ce sont les gens qui viennent vous voir, finalement.
Oui, j'ai même rencontré des gens, vous rendez compte, dans un camp de Syriens qui avaient joué Antigone à Damas. Et que du coup, vous traitez de cela dans l'Institut français. Donc à un moment donné, vous apercevez bien qu'il y a des choses qui marchent quand même. Et donc c'est de ça dont j'ai envie. Et moi-même, je suis allé en 83 avec Jean Genet à Sabra et Chatila. C'est Jean Genet qui m'a emmené à Sabra et Chatila pour reconstruire le camp. Vous voyez bien qu'à un moment donné, un intellectuel français m'a emmené à Beyrouth. Quand quelqu'un me dit je viens de Beyrouth et je suis à Calais, j'ai l'impression de parler de quelque chose que j'ai connu en 83. Moi, je trouve que le monde est magnifique, à une seule condition, c'est qu'il reste les gens. Non, mais je trouve qu'il est magnifique. Et parce que, justement, il est magnifique parce qu'il faut laisser les gens vivre.
Ce qui est intriguant, je trouve, c'est que ce développement de lieux informels, justement, ça a des formes. Moi, dans le livre, je dis à un moment que le pneu est la brique d'une urbanisation criminelle. Je suis fasciné par le pneu. Et je trouve que le pneu, d'ailleurs, il reprend les catégories. Non, mais c'est vrai. Le pneu, ça sert à circuler. Ça sert aussi à construire, ça sert à la contestation, on le brûle, ça sert à l'infortune des gens qu'on assassine en leur foutant des pneus et en y mettant le feu en Afrique du Sud. Et je me souviens, dans le livre, je crois que je le cite, mais la grande historienne du Mexique qui me dit à un moment, le nord du Mexique sera bientôt qu'un désert de pneus et de femmes assassinées, qui est une phrase terrible. Mais je suis fasciné, moi, par la présence des pneus, qui sont des choses dont on ne sait pas quoi faire.
Ça sert à bouger quand même, les pneus.
Mais absolument, et c'est devenu... Et je dis, c'est vraiment devenu l'une des briques de la construction de ce monde.
Vous inspirez des pneus,
partout.
Patrick Bouchain?
Moi, j'ai vécu avec très peu de moyens. Mon père me faisait mes chaussures.
Voilà.
Mon père me faisait mes chaussures avec des pneus. À l'époque, j'avais honte. Et je pense que c'est lui qui m'a montré la voie. J'avais des sandalettes absolument magnifiques faites avec des pneus.
Est-ce que, Patrick Bouchain, dans les reproches que vous pouvez faire aujourd'hui à... aux politiques, le reproche fait et constaté d'abandon des politiques, alors même que beaucoup de choses pourraient être observées et beaucoup d'enseignements tirés, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous attendez encore quelque chose, ou est-ce que aujourd'hui les discussions sur la démocratie que nous habitons, pour le coup c'est aussi une expérience quotidienne, les discussions vont bon train. Est-ce que pour vous, les politiques, vous avez quand même connu les politiques en 30 ans d'expérience, vous en avez même conseillé les politiques, est-ce que les politiques sont vraiment tellement en retard qu'il ne faut plus rien en attendre?
Moi je pense que, oui, en effet, ils sont en retard et quelquefois coupables. Et donc c'est comme si voilà, l'acte était impossible, parce que quelquefois on m'appelle pour faire des choses, un peu comme une dernière roue de secours, et on pense que voilà, j'ai peut-être m'en sortir.
Encore un peu, c'est ça.
Si on met ce que vous dites dans les programmes électoraux, on a peu de chances de se faire élire quand même, vous êtes d'accord là-dessus?
Oui, mais moi, mettons, j'ai travaillé pour le maire de Rennes qui ne s'est pas fait réélire, Daniel Delaveau, et je lui ai demandé d'occuper un bâtiment sans programme. Ce bâtiment sans programme, c'était la fac de sciences. Et j'ai dit, puisque ce bâtiment, soit il va être détruit, soit il va être vendu pour faire un hôtel, il ne peut pas être un musée des sciences parce qu'il n'y a pas d'argent, est-ce que tu me le donnes? Et donc il me l'a donné. Et j'ai décidé, comme c'était la fac dentaire, de faire un bâtiment sur la bouche. En disant, je m'appelle Bouchain, je fais un bâtiment sur la bouche. Et j'ai fait un bâtiment sur le baiser. C'est-à-dire en disant, est-ce qu'on peut avoir un endroit où on s'embrasse? Peut-on s'embrasser mieux quand on a des dents? Peut-on mieux parler si on a des dents? Et ensuite, on a fait donc un bâtiment sur l'éloquence, la nutrition et tout. Et le bâtiment est occupé sans qu'on ait dépensé un centime. Il est en plein centre-ville de Rennes. Ce maire ne s'est pas fait réélire. On a fait un film qui a été projeté là, il y a deux jours. Arte a fait un film. Et le maire est venu à la réunion publique. Il en a pleuré, considérant qu'en effet, mais pourquoi on ne fait pas ça à d'autres endroits? C'est un bâtiment de l'histoire de Rennes.
C'est pas pour ça qu'il n'a pas été réélu.
Oui, oui.
Si, c'est pour
Non, mais je pense que c'est pas pour ça. Mais c'est en même temps, il ne s'est pas représenté. Et c'est une façon de dire qu'en gros, être élu, c'est peut-être pas avoir les moyens de faire de la politique.
Et Patrick Bouchain, vous citiez tout à l'heure le Pérouse Laboratoire qui travaille à Calais depuis un certain nombre de mois. Ce laboratoire, cette association est dirigée par le paysagiste Gilles Clément. Sur le site du Pérouse, on peut lire un manifeste. Le manifeste commence par ces phrases des villes invisibles, dit Italo Calvino, que je voudrais vous lire pour terminer. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui est quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire de la place. Italo Calvino, Les villes invisibles, ça devrait vous plaire, Patrick
Bouchain. Oui, mais je vais même lire Kafka. Alors je vais lire Kafka qui dit « On reconnaît l'inanité de bâtir une tour qui toucha au ciel. » Il parle de Babel, point de suspension. « Mais trop de liens s'étaient créés pour qu'on abandonnât la ville. »
Patrick Bouchain, vous avez choisi La création du monde de Darius Milhaud, qu'on entend là sous la direction de Leonard Bernstein.
Pour moi, c'est tout ce qui m'anime. D'abord, cette création est faite quand même par quelqu'un qui a été le secrétaire de Paul Claudel. C'est quelqu'un qui a écrit cela en 1923 avec Blaise Sandrart. C'est donc qu'il l'a joué au Bœuf sur le Toit, qui s'est appuyé, Django Reinhardt venait l'écouter, c'était le lieu du mélange. Et cette année, pour le festival de musique d'Evian, qui est donc dirigé par le quatuor Modigliani, on va donc jouer cette pièce, parce que c'est la musique française, et on va la jouer, pour finir, Caroline, dans une tente en bois. car Slava Rostropovitch m'a commandé comme lieu donc de musique à Évian une datcha qu'il a appelée la tente en bois, la Grange au Lac.
Merci Patrick Bouchain. Je renvoie les auditeurs à cette exposition Habiter le campement qui se tient jusqu'au... Alors là, j'ai perdu les pages. Je pense que c'est jusqu'au mois d'août. Je me tourne... Oui, c'est ça. Hein, c'est jusqu'au mois d'août. Donc c'est long, ça dure. Vous pouvez vous y rendre, même si vous n'êtes pas parisien. Vous êtes peut-être nomade, contestataire ou voyageur. Et donc vous pouvez vous venir à Paris. Je renvoie également au catalogue édité par Actes Sud et à votre livre, Philippe Tretiak, L'architecture à toute vitesse, 56 règles glanées autour du monde. Merci à tous les deux et merci à toute l'équipe de La Grande Table. À la réalisation, c'était Lionel Quentin, et à la prise de son aujourd'hui, Pierrick Monsigny.